Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurin.
Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition, édition 2020 de Ça roule radio. D'abord à tous une très bonne année, on va vous souhaiter une année remplie de bonheur, de santé et de tout ce qui est bon pour vous. Bon, je sais c'est plate parce que vous vous attendiez à ce que je vous souhaite plein de bonheur, mais dites-vous que ce que vous souhaitez n'est pas nécessairement bon pour vous. Moi je souhaiterais un gros gâteau au chocolat, mais je sais que c'est pas bon pour ma santé, fait que je vais me contenter du tofu. Mais ceci étant dit, donc bonne année à vous et je vous avais promis des changements en 2020. Les changements commencent avec cette nouvelle édition de Ça roule radio. Pourquoi? Parce que là, vous m'entendez, mon nom est Marc Bouchard, vous me connaissez, mais celui que vous allez entendre au cours des prochaines minutes, c'est un petit nouveau. Je vais vous le présenter parce que ça fait longtemps, en fait, quelques mois même, voire quelques années, qu'on travaille ensemble. Il est animateur de radio dans une station francophone à Toronto. C'est surtout un passionné de voitures. C'est un gars qui a une connaissance historique des voitures aussi intéressante. Il est européen, ça va aussi amener une vision différente. Bien sûr, il reste au Canada, mais il a encore des antennes un peu partout en Europe. Alors moi, je vous invite à accueillir avec moi Guillaume Laurin. Guillaume, bonjour.
Salut mon cher Marc Bouchard, ravi d'être avec toi ici à Ça roule radio pour la première de l'année. Eh bien, je suis en effet journaliste radio, comme tu l'as mentionné, mais avec un parcours et une formation totalement atypique, dont je suis plutôt fier, puisque j'ai travaillé longtemps dans le marché de l'art à Paris, mais après tout, pour moi, eh bien l'automobile, c'est aussi un art, et donc je me sens plutôt en harmonie avec une émission de voiture aujourd'hui en ta compagnie.
Ouais, d'ailleurs, faut préciser aux gens que depuis longtemps, on fait ensemble une chronique sur les ondes de la radio du travail. Et ce que t'as oublié de préciser et que j'ai appris moi-même récemment, c'est que non seulement tu es journaliste radio, mais t'es aussi un chanteur.
Ah oui, ça fait partie des différentes cordes que j'ai à mon arc. En effet, mon cher Marc, on aura l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Peut-être même que je vais pousser la chansonnette de temps en temps si le cœur m'en dit. Mais je compte bien surtout essayer de donner mon avis, essayer de donner mon regard, de trouver ma voix à tes côtés, peut-être te servir un petit peu de poil à gratter de temps en temps pour sortir des sentiers battus, parce que ici on va parler de l'actualité automobile au sens large. On va essayer des voitures de rêve et des voitures plus standards, j'allais dire. Mais moi, je suis un passionné. J'aime le détail qui tue. J'aime pas forcément uniquement les plus belles ou les plus rapides des voitures, mais j'aime tout simplement en savoir plus sur tout ce qui fait ce monde de l'automobile. Et je suis certain qu'ensemble, on va pouvoir en voir des vertes et des pas mûres, on va dire.
Oui, effectivement. Mais avant de passer au vif du sujet, si tu permets, je vais profiter pour dire aux gens que si vous avez des questions, des sujets que vous avez envie qu'on soulève, que ce soit moi, que ce soit Guillaume, je vous l'ai dit, vous l'avez entendu avec son parcours particulier, faites-nous signe, envoyez-nous ça à info@saroulradio.com ou sur notre page Facebook, Ça roule radio. On va essayer d'aller un peu plus large parce que, depuis quelques années avec le podcast, on était assez concentré sur les essais et sur l'actualité pure et dure. Mais là, on a envie d'élargir un peu. Guillaume a amené de nouvelles idées, entre autres, au niveau de différents sujets de chronique qu'on aura au fil des mois, on espère. Et bien sûr, on est ouvert à toutes vos suggestions. Alors, on va attendre ça. Mon cher Guillaume, je te souhaite donc officiellement la bienvenue. Ça fait longtemps qu'on en parlait. C'est enfin chose faite. Et tu fais maintenant partie officielle de l'équipe Ça roule radio.
Merci, mon cher Marc. Je suis très honoré et je me ferai un devoir d'être toujours présent à tes côtés pour cette belle émission.
De toute beauté. Alors, si tu permets, mon cher, on va sauter immédiatement dans le vif de l'actualité. Et le vif de l'actualité cette semaine, c'était clairement le CES, le fameux Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas.
Ah, c'est la grande messe de l'industrie technologique à Las Vegas en ce moment. Alors, mon cher Marc, qu'est-ce que le monde de l'automobile a à apprendre et à retenir de ce salon?
Écoute, c'est assez particulier parce que il y a quelques années à peine, le CES était d'abord Un truc pour, tu l'as dit, des gadgets électroniques essentiellement. Donc, on y a vu beaucoup de téléviseurs, de systèmes audio, de tout ce que tu veux. Or, depuis quelques années, avec l'avenue de plus en plus abondante de technologies de pointe dans l'automobile, on se retrouve avec des producteurs, des constructeurs, des manufacturiers automobiles sur place qui nous proposent des affaires vraiment complètement folle. Cette année, cependant, ce qui est étonnant, c'est qu'on a aussi assisté au contraire. C'est-à-dire que ce sont des compagnies qui, traditionnellement, ne sont pas dans l'automobile et qui ont quand même présenté des projets assez uniques. Et là-dessus, je pense à la compagnie Sony.
Ah oui, vraiment, Sony, la compagnie japonaise bien connue, l'inventeur du Walkman, l'inventeur de toutes ces choses-là.
Ouais, exactement. Ils sont, tu l'as mentionné, essentiellement tournés vers généralement ce qui est de l'audio. Or, ils ont pris tout le monde par surprise parce qu'ils ont présenté une voiture au CES. Elle s'appelle la Vision S. C'est bien entendu, tu t'en doutes, une voiture qui est totalement électrique, hein, si on est dans l'air du temps quand même. Mais c'est surtout un prototype un peu flyé qui a... On voulait surtout miser sur l'interface et la connectivité entre les occupants de la voiture et la voiture elle-même. Alors, il y a par exemple 33 capteurs qui ont été installés un peu partout dans la voiture et à l'extérieur de la voiture. Et ces capteurs-là servent notamment à contribuer à améliorer la conduite, à améliorer aussi l'expérience de confort. Donc, évidemment, selon la personne qui est à l'intérieur, on va modifier des éléments aussi pointus que la musique ou la température. Et bien sûr, ces capteurs-là vont aussi servir à détecter ce qui se déroule autour de la voiture et donc d'assurer une conduite un peu plus sécuritaire. Bien entendu, on ne pouvait pas avoir une voiture Sony sans avoir aussi un Sony 360 Reality Audio. Donc, tu t'en doutes, c'est un système audiophonique qui est là pour avoir une expérience. On appelle ça une expérience auditive immersive selon Sony. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé très, très fort sur la façon de placer les haut-parleurs à l'intérieur de l'habitacle pour avoir vraiment un élément assez unique au niveau de la sonorité. On dit que c'est digne d'une salle de concert classique. On verra évidemment si un jour ça arrive pour vrai dans la vraie vie. Mais dans les faits, ce qu'on a voulu surtout faire, c'est créer une plateforme qui pourrait éventuellement être proposée à d'autres manufacturiers. Ne vous attendez pas de voir la voiture Sony rouler sur les routes bientôt, là. Je pense pas que ça fasse partie nécessairement des projets de la compagnie. Même si on dit qu'elle fait le 0-100 en 4 secondes avec une vitesse de pointe de 240 chevaux. Écoutez, moi, attendez pas un concessionnaire Sony pour acheter votre voiture. Je pense pas que ça va se faire cette année.
Alors, Sony qui se lance dans l'automobile, ça, c'est peut-être assez surprenant. Bon, la voiture chante bien, j'imagine, mon cher Marc. Ça allie, en effet, deux de mes grandes passions. Donc, j'aime cette nouvelle. Cela dit, on va peut-être pas la découvrir, en effet, dans nos rues demain matin. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, d'autres innovations intéressantes au CES que tu as remarqué pour nous cette année dans le monde de l'automobile?
Ouais, ben il y en a des tonnes. Mercedes-Benz qui nous est arrivé avec un concept qui s'appelle le AVTR. Pourquoi AVTR? C'est simplement parce que c'est l'abréviation de Avatar. C'est inspiré directement du film du même nom. Mm. Donc, on dit vraiment que c'est un véhicule qui est composé de façon organique, tant dans sa forme que dans son contenu. Les cuirs à l'intérieur, par exemple, sont des cuirs vegan. On dit que tout ça est fait pour s'adapter aux conducteurs aussi. À un point tel, en fait, qu'on dit que peu importe où tu regardes dans la voiture va détecter ton regard et être en mesure d'établir comment tu te sens et d'adapter l'atmosphère en conséquence.
Alors là, on pousse le bouchon très loin, mon cher Marc. J'ai l'impression que Mercedes voudrait carrément conduire à notre place. C'est déjà en partie chose faite, mais dans un avenir proche, est-ce que tu as le sentiment que ça veut dire que l'automobile va devenir une sorte de train à grande vitesse?
Bon, en fait, objectivement, je n'y crois pas vraiment. Je pense que ça va se faire dans un contexte extrêmement limité. Par exemple, un service de taxi ou de navette dans une zone donnée, avant que les voitures ne soient littéralement autonomes et qu'elles soient déployées partout. Je pense qu'on a beaucoup de chemin à parcourir, là. On n'est pas rendu là, même s'il y a toutes sortes de projets. D'ailleurs, il y en aura d'autres des projets, puisque Toyota a pris un peu tout le monde par surprise au CES en ne présentant aucun véhicule, mais en présentant une ville. Et ça s'appelle Woven City. C'est une ville qui aurait 175 km² de superficie et qui va être construite au pied du mont Fuji.
Wow.
Ouais, l'idée, c'est qu'on veut qu'elle soit totalement alimentée par de l'hydrogène, parce qu'on sait que Toyota mise beaucoup sur l'hydrogène.
Ouais.
Et on veut qu'elle serve de lieu, si tu veux, de quartier général à tout ce qui est recherche pour Toyota. Donc, il y aura sur place des ingénieurs, des facilités pour les tests et tout. Donc, on voudrait créer une espèce de ville consacré strictement au développement technologique du côté de chez Toyota.
Alors ça, c'est pas seulement au Japon que ça se passe, même ici à Toronto, il y a un projet un peu similaire d'une filiale du géant américain Google qui veut construire une ville connectée, et peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler si il y a un versant automobile dans ce projet. D'autres choses que tu as vues, mon cher Marc, au CES?
Ouais, ben on parle beaucoup de voitures autonomes et de voitures électriques. Byton, qui est une compagnie chinoise, avait présenté l'année dernière une espèce de prototype avec un gigantesque tableau de bord vidéo. Cette fois, on arrive avec des véhicules qui sont plus standards, mais on dit surtout que Byton devrait faire son apparition en 2021 aux États-Unis. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que Byton, ce serait la première compagnie chinoise à officiellement commercialiser des produits directement sur le sol américain.
Alors ça veut dire que cette compagnie va, disons, passer toutes les réglementations en cours, les plus strictes en matière de pollution, de sécurité et autres, chose qui n'était pas forcément le cas, je crois, pour la plupart des constructeurs chinois jusqu'à présent.
Effectivement, et on dit que c'est de plus en plus facile parce que les voitures électriques étant ce qu'elles sont, elles répondent d'office, si tu veux, aux normes anti-pollution. Donc, il n'y a vraiment que les normes de sécurité que l'on doit respecter. Donc, on dit que c'est plus facile pour une compagnie chinoise de s'en venir chez nous. Et on dit qu'eux, Byton a confirmé qu'ils seraient ici à la fin au deuxième semestre de 2021 sur le sol américain. Alors ça, c'est une grande nouvelle. Il y a quand même des choses un peu moins flyées qui ont été présentées au Jeep, entre autres, a présenté trois modèles différents, le Renegade, le Compass et le Wrangler, mais en version hybride branchable. Donc, on l'attendait, on nous l'avait dit, ce sont des modèles qui devraient être lancés au plus tard pour être disponibles comme modèle 2022. C'est évidemment pas des véhicules qui sont dotés d'une très grande autonomie. On parle d'à peu près 50 km en mode branchable, mais c'est l'équivalent de ce que fait déjà la Chrysler Pacifica branchable. Alors, je pense que déjà ça, c'est fort intéressant comme idée. Il y a Nissan qui a présenté le concept Ariya qu'on avait déjà vu à Tokyo et que l'on revoit cette fois au CES. Donc, c'est un espèce de véhicule utilitaire sport. Ce n'est pas une Nissan Leaf agrandie, là. C'est vraiment un véhicule qui a sa propre personnalité, mais qui est encore une fois 100% électrique et qui devrait disposer des mêmes capacités que tout ça. Et l'autre nouvelle, et ça c'est particulier, c'est Fisker. Tu connais la compagnie Fisker?
Ah oui, j'adore. Alors, une de mes marottes en matière d'automobile, c'est le design notamment, et je dois dire que la silhouette de ces Fisker est assez magnifique souvent.
Ouais, ben écoute, imagine que là, tu sais qu'à ce moment-là, les Fisker, celles qui existaient, les Karma ou les Revero plus récentes, qui étaient 100% électriques, sont aussi des véhicules qui n'étaient pas donnés, disons, du point de vue budgétaire.
C'est le moins qu'on puisse dire, cher Marc.
Sauf que là, on arrive avec un VUS, en fait un multisegment, qui s'appelle le Fisker Ocean, qui serait 100% électrique,
d'accord,
avec une batterie de 80 kWh et qui serait disponible en 2022 pour, tiens-toi bien, 37 999 US.
Où est-ce que je signe?
Ben, en fait, écoute, à 37 999 US, c'est le moins dispendieux de tous les véhicules électriques ou à peu près sur le marché. Véhicules de luxe, on s'entend.
Ouais, ouais.
Donc, il passe bien en deçà de ceux qui sont déjà offerts. Alors, évidemment, il faut voir si Fisker est capable de construire de façon massive des véhicules de cette nature-là. Ça pourrait être fort intéressant, mais toi qui aimes le design, je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur ce véhicule-là, qui est vraiment magnifique, il est vraiment beau, et la particularité, il a un toit solaire qui fait pleine grandeur, qui permet de recharger une partie, en fait, d'utiliser une partie des éléments électriques dans la voiture, chauffage, radio et tout ça. Donc, ça n'affectera pas l'autonomie du véhicule lui-même, alors qu'on sait qu'actuellement, une voiture électrique, quand on parle de chauffage, bien évidemment, ça diminue considérablement l'autonomie disponible pour la propulsion.
Alors, je suis déjà en train de regarder les images de ce Fisker Ocean. Je vous invite à le faire également sur le net. C'est absolument magnifique. Un profil qui fait un peu penser à un VUS Volvo, peut-être. Et donc, quelque chose qui devrait arriver sur les routes, mon cher Marc.
Oui, en fait, eux disent que d'ici 2022 au maximum, ce véhicule-là va être offert à tout le moins aux États-Unis. Mais comme je dis, on verra quelle est la capacité de production de Fisker. Alors, il y a eu toutes sortes de choses comme ça. Bon, il y a Chrysler qui nous a présenté aussi le Airflow. Bon, Airflow, c'est un nom que tu connais, oui. Évidemment. Un nom qui date des années 30 à l'époque, qui était le premier véhicule doté d'aérodynamisme testé dans un tunnel.
C'est d'où le nom. En effet, c'était, je crois, il y avait des sortes de petites buses d'air qui soufflaient sur la carrosserie pour voir visuellement de l'air qui était coloré un petit peu et qui nous donnait une idée de l'aérodynamisme assez embryonnaire à l'époque.
Exactement. Mais là, écoute, le Airflow, à l'époque, ça avait été révolutionnaire. On a voulu conserver le nom pour l'aspect révolutionnaire de la chose, non pas parce qu'on parle d'aérodynamisme ici, mais c'est plutôt de technologie. On dit que c'est tout l'ergonomie intérieure, tout l'interface, en fait, de communication entre le conducteur et l'habitacle qui est modifié. Des menus différents, une personnalisation abondante. Alors, c'est ça qui est le Airflow. Et il y a Audi qui a aussi présenté un autre véhicule où, encore une fois, l'ergonomie est différente. Bref, beaucoup, beaucoup de technologies automobiles qui sont présentées au Consumer Electronics Show. Malheureusement, ni toi, ni moi, n'y étions cette année.
En effet, malheureusement, comme tu le dis, mon cher Marc, peut-être que l'année prochaine, qui sait, on pourra se rendre à Las Vegas pour ce Consumer Electronics Show ensemble. Ça serait en tout cas un grand plaisir. Je crois qu'il y a plus de 170 000 personnes qui s'y pressent chaque année, des projets des plus farfelus aux plus sérieux dont tu nous as parlé. Moi, je retiens là quelques-uns des mots que tu as employés. Je retiens le cuir vegan, c'est peut-être un argument en marketing, mais je pense que ça, on devrait le voir dans nos voitures d'ici peu de temps parce que ça intéresse de plus en plus de monde.
Effectivement. Alors, mon cher Guillaume, si tu permets là-dessus, on va faire une courte pause. Et au retour de la pause, je te cède le micro. C'est toi qui vas prendre maintenant la direction de l'émission. Et bien, on va en profiter pour parler des essais du Dodge Durango SRT et du Mazda CX-5.
Alors, on revient juste après ceci à fond la caisse. Il y a des passionnés de sport, les fondus de cuisine ou encore les accros aux infos. Nous, on est fous d'automobile. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Ça roule radio. Je suis Guillaume Laurent en compagnie de Marc Bouchard. Ça va toujours, Marc?
Oui, le faux, mon cher. Quand on parle d'auto, c'est difficile que ça aille mal.
En effet. Alors, pour me présenter aux nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, eh bien, moi, j'ai toujours eu un faible, je dois dire, pour les voitures, notamment les voitures qui sortent de l'ordinaire. Mais ça, c'est que ce soit une Ferrari ou une Ford ou n'importe quoi, je suis passionné. Et je crois que c'est aussi ton cas, mon cher Marc. Et chaque semaine, tu vas nous présenter des essais automobiles. Et on parle aujourd'hui en particulier d'une voiture qui va nous donner le frisson et qui va me plaire beaucoup parce que en effet il s'agit à la fois d'une voiture qui est plutôt jolie, qui est plutôt très rapide, qui est plutôt sportive et qui est complètement décalée comme je les aime. C'est une voiture tout en muscles. Je te laisse l'introduire.
Ouais, ben en fait c'est les gens le savent, j'ai un faible pour les véhicules de bonne dimension. Et évidemment, je ne pouvais pas être plus choyé qu'en ayant le Dodge Durango. Sauf que le Dodge Durango que j'ai conduit était la version SRT.
Alors là, on s'entend SRT, c'est un sigle qui, chez les amateurs de la marque Aubélier, éveille tout de suite l'intérêt. D'habitude, je crois que le Durango, moi, j'ai eu l'occasion de conduire le dernier modèle. Il est déjà assez bien loti avec un V6 de 3,6 litres, si je ne m'abuse, de base. Mais il peut aussi recevoir un V8, ce qui est un peu inédit dans cette catégorie. Si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mon cher Marc, hein.
Non, mais tu as parfaitement raison. Et c'est le cas effectivement de celui-là. C'est le fameux moteur EMI V8 6,4 litres qui est un monstre de puissance. 475 chevaux, 470 livres-pieds de couple. D'ailleurs, si tu as vu les photos du Durango SRT, sur le côté, tu remarqueras le 392. 392, en fait, c'est la grosseur du moteur. C'est 392 pouces cubes de moteur qui se retrouve sous le capot.
C'est-à-dire 6 litres 4 convertis. Alors, c'est un très gros moteur, comme on n'en fait plus beaucoup, finalement, dans l'industrie automobile. Moi, qui viens de la vieille Europe, je veux dire que des moteurs de 6 litres 4, il y en a, pour ainsi dire, plus, en tout cas, sur les voitures de madame et monsieur tout le monde. Ça fait plaisir d'en trouver encore quelques-uns ici. Et c'est tout simplement une sorte de muscle car en version VUS, ce Durango.
Totalement. Écoute, c'est... Écoute, pour te donner une idée, là, il fait le 0-100 en 5 secondes ou à peu près. Donc, c'est quand même assez imposant. C'est sûr que ça demeure un très gros véhicule, donc il est assez imposant. Ce que ça fait, évidemment, c'est que quand on veut le conduire de façon un peu plus dynamique, même si les suspensions sont quand même bien adaptées, il faut savoir que il y a du transfert de poids qui se fait de façon un peu marquée. Par exemple, quand on freine un peu abruptement, ou que l'on prend des virages de façon un peu plus appuyée, ben là, on sent qu'il y a un transfert de poids définitif et il faut se battre un peu plus avec la direction pour le maintenir, garder le cap. D'un autre côté, cependant, c'est un véhicule pour lequel on n'a pas voulu strictement jouer la carte de la performance. Donc, on a quand même voulu conserver un certain confort parce que c'est quand même un véhicule imposant, 7 passagers, donc 3 rangées de sièges, avec tout ce que tu veux comme équipement de luxe, là.
On est basé maintenant, je crois, parce que le Durango chez Dodge, c'est une histoire déjà ancienne, depuis 1998, et à l'origine, il était plutôt compact, et aujourd'hui, en effet, tu le disais, c'est un gros véhicule, 7 passagers. On est basé maintenant sur le Jeep Cherokee, c'est bien ça?
Ouais, en fait, c'est le même. On partage la même plateforme, effectivement, mais elle est plus longue dans le cas du Durango. Et c'est vraiment, on a vraiment voulu jouer la carte du VUS. Donc, on a tout ce qui est véhicule utilitaire. Donc, on a un rouage intégral qui est un véritable rouage intégral qui nous permet de franchir des obstacles, ma foi, assez étonnants. On a aussi une capacité de remorquage qui est assez spectaculaire. C'est 8700 livres, donc 3950 kilos ou à peu près. Parce que, bon, je vais me faire un plaisir de traduire pour toi, là.
C'est gentil, mon cher Marc. Presque 4000 kilos de capacité de remorquage, c'est digne d'une camionnette demi-tonne, ça.
Exactement, c'est presque l'équivalent, en fait, d'une camionnette un demi-tonne. Donc, on est vraiment dans un monde où le côté utilitaire est tout à fait exact. Sauf qu'évidemment, tu l'as mentionné en début d'intervention, c'est un muscle car, c'est un véhicule où on n'a pas voulu oublier le côté sportif. Donc, on arrive vraiment avec une conduite qui est assumée. On a un moteur qui fait un ronronnement absolument spectaculaire. D'ailleurs, petite anecdote, je suis allé, parce que je l'ai eu tout le long du temps des fêtes, je suis allé à un moment donné faire des commissions au centre commercial, et il y a un gars qui est arrivé aux côtés de moi avec un gros Ram, vraiment, que lui avait mis le paquet, là, en matière de performance, en matière de look, de chrome, de tout ce que tu veux, tout était là, et... Le gars est arrêté aux côtés de moi, a débarqué de sa voiture et est venu voir mon camion en disant « Écoute, si j'avais à changer le mien, c'est un comme le tien que je voudrais.
» Ça ne m'étonne pas. Que... Ouais, c'est un véhicule qui suscite le désir chez les véritables amateurs d'automobile. C'est un véhicule aussi qu'on apprécie, j'imagine, surtout derrière le volant, hein, le plaisir de conduite, mon cher Marc.
Évidemment, le plaisir de conduite est là. Comme je l'ai dit, les suspensions ont un petit peu de transfert de poids, ce qui est un peu dommage. Mais pour le reste, c'est quand on est en mode plus traditionnel, si tu veux, qu'on élimine un peu le mode sportif, on est vraiment un véhicule qui est confortable, qui est polyvalent et qui est capable de transporter beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. Nous, on s'en est servi. Bon, histoire courte encore une fois. Là où mon épouse travaille, ils ont créé une fondation qui remet des paniers de Noël chaque année à une quarantaine de familles. Et bon, nous, on allait en distribuer quelques-uns. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais organisé pour avoir un gros véhicule. Donc, on a rempli littéralement le camion de paniers de Noël. On était 4 occupants à l'intérieur. On a fait toute notre distribution et on n'a pas eu aucune difficulté. Vraiment, tout ça s'est fait dans le grand confort. Là où après, cependant, ça s'est un peu gâché, c'est quand mon fils a embarqué dans la deuxième rangée. Ça m'a étonné. Et je parle pas de la troisième, là, parce que la troisième, on s'entend, c'est une rangée de convenience.
Oui, hein, plutôt pour des enfants ou des personnes de petite taille en général.
Exactement. Alors, donc, on s'y attend. L'accès n'est pas facile, mais bon, c'est correct. Ça fait partie de la chose. Dans la deuxième rangée, je m'attendais quand même qu'il y ait un dégagement plus imposant que celui-là. Ah, mon fils, qui fait 6 pieds 3 quand même, s'est installé là-dedans et a dû demander au passager avant d'avancer son siège parce que les genoux lui accotaient directement dans le dossier.
Ah oui, ça, c'est une petite limite pour ce véhicule qui est pourtant assez imposant de l'extérieur, mon cher Marc.
Exactement. Par contre, je peux te dire qu'au niveau du dégagement pour les épaules et pour la tête, il n'y a pas eu de problème de ce point de vue-là. Je t'ai parlé aussi de l'équipement de luxe qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule-là. Il y a quand même des éléments dont il faut parler. Entre autres, le fait qu'il était doté à l'arrière là d'écrans individuels avec des écouteurs Bluetooth pour le confort des occupants, bien sûr. À l'avant, tous les sièges, bon, sièges chauffants, sièges très confortables qui offraient un excellent support. Système multimédia Uconnect qui est à mon avis, est toujours un des plus faciles à utiliser sur le marché. Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant. Alors, honnêtement, on avait là un véhicule qui était assez complet, qui est agréable à conduire. Bon, il y a quand même des bémols, hein. D'abord, les dimensions. Ça ne se place pas comme on veut dans un stationnement public.
Non, c'est pas une 400, ça c'est sûr, mais on l'achète pas pour ça non plus.
Non, mais je peux te dire qu'on est content d'avoir des caméras et des capteurs d'aide au stationnement un peu partout, comme la plupart des systèmes d'aide embarqués d'ailleurs là, qu'il y a là-dessus. On est très heureux de les avoir. Là où évidemment il y a un second bémol, c'est au niveau de la consommation de carburant.
Bon, on s'entend, Marc. J'imagine que c'est la même chose lorsqu'on fait l'achat d'un tel véhicule, surtout avec le logo SRT. On sait qu'on entre dans un domaine qui n'est pas très raisonnable.
Non, et c'est le mot raisonnable ne devrait même pas faire partie de la discussion dans ce cas-ci parce que bon, Chrysler nous dit qu'il devrait avoir une consommation combinée de 15,6 litres au 100, ce qui est peut-être exact. Moi, je peux te dire que pour l'avoir utilisé durant 2 semaines, au moment où j'étais bon dans le temps des fêtes, j'ai pas fait beaucoup d'autoroutes. Je dois dire que essentiellement. Outre ma distribution de panier de Noël, là, tout le reste s'est fait dans un rayon très, très urbain, si tu veux, autour. J'ai maintenu une moyenne de 20,3 litres au 100.
Ah oui, ça fait mal, c'est un sujet qui fâche, mais au moins tu as livré tes paniers de Noël de manière express.
Oh, exactement, ils sont arrivés très rapidement. Voilà. Autre bémol, bien entendu, dont il faut parler parce qu'on n'a pas trop le choix, 73 900 $, c'est le prix de base de ce Durango SRT. Ce qui est quand même assez élevé, puisque si on va chercher la version de base du Durango, là, qui tu en as parlé tout à l'heure, est quand même super intéressante à conduire, elle est à 45 000 $. Donc, il y a 30 000 $ de différence, ou à peu près, entre la version de base et la version SRT.
Ouais, mais c'est vrai aussi que dans ce domaine, dans ce créneau-là, il n'y a peut-être pas énormément de concurrence avec un si gros V8 sous le capot. Donc, tout cela a un prix, mon cher Marc. Moi, je soutiens... une initiative de Dodge parce qu'il n'y a plus beaucoup de véhicules aussi démesurés que celui-là alors sur le marché. Moi, je trouve que c'est plutôt sympathique, même si on est bien d'accord. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas écologique et ça consomme beaucoup. Mais j'espère que ce constructeur va continuer de nous faire rêver avec quelques véhicules un peu sportifs comme ça.
Écoute, j'ai passé 2 semaines avec le sourire au visage, là, on se cachera pas.
Voilà. Alors, je crois que dans la deuxième partie, tu vas nous parler d'un véhicule un petit peu plus raisonnable, celui-là, que j'aime beaucoup aussi, parce que lui aussi, il a plutôt une jolie ligne et il a été bien renouvelé. C'est le nouveau Mazda CX-5.
Effectivement, mais écoute, j'en parlerai moins parce qu'on en a déjà parlé abondamment. J'ai fait l'essai de ce véhicule récemment. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, en fait, c'est que justement parce que j'avais le gros Durango, mais bon, j'avais aussi j'avais des tournages à faire, entre autres, donc j'avais besoin d'un autre véhicule et j'ai eu le CX-5 au cours de la même période. Et chaque fois, et c'est pour ça que je veux en parler, chaque fois que je conduis ce véhicule-là, j'en ressors enchanté. C'est un véhicule qu'on a tendance à négliger un peu parce qu'il est là depuis quelque temps, même si on l'a renouvelé un peu pour 2020, puis qu'on a fait quelques changements au fil des années. C'est quand même un véhicule qui est, ma foi, tellement intéressant à plein de niveaux. D'abord, il y a des moteurs qui sont totalement économiques. Hein? Bien sûr, il y a le fameux moteur turbo qu'on a implanté cette année, mais il y a aussi d'autres motorisations. L'ancienne motorisation n'était pas vilaine non plus, avec un moteur 4 cylindres 2.5 litres de 187 chevaux, qui est d'une grande économie. Un système qui s'appelle le contrôle vectoriel des forces G, c'est un système en fait qui utilise le couple du moteur pour assurer un équilibre de la carrosserie et donc qui rend la randonnée 2-3 fois plus confortable et pour avoir testé avec et sans. À l'époque où on l'a lancé, je peux dire que ça fait vraiment une différence. Et ça, on en parle très peu parce que c'est inclus dans tous les véhicules Mazda, mais c'est un élément de confort vraiment agréable. C'est sûr que c'est pas... Écoute, quand on compare au Durango, je cherchais un peu l'accélérateur. Hein,
on... Oui, là, quand on sort d'une voiture de sport, on est toujours un petit peu perdu, mais ce n'est peut-être pas le propos premier du nouveau CX-5. Tu as le moteur turbo sous le capot?
Non, j'avais pas le moteur turbo, j'avais le moteur le 4 cylindres 2.5. Le moteur turbo, je l'ai essayé précédemment. Écoute, c'est honnêtement un véhicule qui, moi, m'impressionne par son équilibre, par son homogénéité, par sa façon d'être et par le fait qu'il se distingue encore avec un look assez unique. Donc, pour moi, le CX-5 a été nommé à plusieurs reprises comme étant une des voitures de l'année et je peux te dire que j'adhère tout à fait à cette théorie-là. C'est un véhicule que j'aime beaucoup et c'est un véhicule, à chaque fois que je le laissais, je me dis, mon Dieu, si j'avais à m'acheter un VUS de cette taille-là, ce serait un de ceux que je considérerais automatiquement.
Ben, en effet, moi-même, quand j'ai cherché une voiture l'an dernier, j'ai essayé ce modèle et je dois dire que j'en étais enchanté. C'est finalement pas là-dessus que je me suis fixé, faute de budget, mais ça, c'est une autre histoire, mon cher Marc. En tout cas, on essaiera certainement, on en reparlera peut-être de ce Mazda CX-5 quand on parlera d'autres concurrents qui vont arriver sur le marché cette année ou au fil du temps. On arrive déjà quasiment à la fin de cette première émission de l'année, je crois, mon cher Marc.
Ouais, effectivement. Alors, mon cher Guillaume, je te réitère un mot de bienvenue. La semaine prochaine, c'est toi qui vas diriger le show d'un bout à l'autre. Moi, je ne serai que ton faire-valoir. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, là, mais en tout cas. Mais c'est quand même toi qui va prendre le micro. On invite les gens, bien sûr, à nous suivre chaque semaine. Ça Roule Radio, c'est votre émission d'actualité automobile. Vous pouvez nous écouter sur le site saroule-radio.com. Vous pouvez aussi nous écouter sur Radio Média Plus et sportradio.ca. Deux radios Internet qui nous diffusent à plusieurs reprises durant la semaine. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à notre audio en allant soit sur Spotify, soit sur Apple, bien sûr, sur Google. On est sur le Google Play. On est vraiment partout. Donc, on vous invite à ça. On vous invite aussi à nous faire parvenir vos questions info@saroule-radio.com ou sur notre page Facebook saroule-radio.com. Et sur ce, mon cher, je te remercie à nouveau d'avoir accepté de faire partie de cette aventure un peu folle. Et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Marc Bouchard pour Saroule Radio. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour des nouveaux essais, des nouvelles actualités automobiles et encore bien d'autres choses, beaucoup de surprises à venir.